VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, la délégation des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui séjourne dans le pays depuis hier pour promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l'opposition a commencé ses consultations à Gitega avec le président Pierre Pierre Nkurunziza dans l'espoir de parvenir à son objectif. Mais les violences continuent dans le pays. À preuve, les tirs nourris et jets de grenades dans trois quartiers de la capitale Bujumbura dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont fait au moins 3 morts et plus de 12 blessés selon le porte-parole de la police burundaise. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les quartiers contestataires de Chibitoke, Biza, Uterere et Mutakura ont été jeudi soir le théâtre de violents affrontements entre la police et des hommes armés que la police qualifie d'insurgés posant des actes de terrorisme. 3 personnes ont été tuées, c'est selon Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police. Il a également fait état de 12 personnes blessées, tandis que 2 personnes ont été arrêtées. Les enquêtes pour connaître s'il y a eu une relation entre ces violences et la venue pour la deuxième fois en une année du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies au Burundi ont débuté, selon la police. Qui éclaircira la situation après enquête. Entre-temps, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies continuent à s'entretenir avec les autorités burundaises, l'opposition et la société civile. Pour Hervé Latsou, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la situation se détériore de jour en jour et les mois de novembre et décembre derniers ont vu une augmentation significative des violences et des assassinats dans ce petit pays de 27 834 km² qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les Nations Unies auront beaucoup à faire au Burundi, surtout qu'un groupe armé présidé par l'ancien putschiste général Godefroy Niyombare, les forces républicaines, a vu le jour. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Un cadre des forêts boue, les forces républicaines du Burundi, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat que les attaques de la nuit passée contre la police à Bujumbura visaient à montrer au Conseil de sécurité de l'ONU que le Burundi était déjà en guerre. Avant leurs entretiens avec le président Nkurunziza, les 15 diplomates du Conseil de sécurité avaient déjà eu des entretiens et consultations dans la matinée avec le ministre des Affaires étrangères Alain Nyamitwe, le vice-président burundais Gaston Simdiro et aussi des représentants de la société civile. L'objectif des visiteurs, rappelons-le, convaincre les autorités burundaises d'autoriser le déploiement d'une force africaine à laquelle Bujumbura s'oppose jusqu'à présent catégoriquement et puis aussi reprendre les pourparlers avec l'opposition. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz promet d'engager des consultations avec les forces vives de la nation pour trouver une solution de sortie de crise dans le pays. Les précisions de notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Après 5 jours de silence, le chef de l'État José Mario Vaz s'est finalement prononcé sur l'impasse politique à travers un communiqué de presse auquel nous avons eu accès. D'après ce communiqué, José Mario Vaz a promis de commencer des contacts avec les différentes forces vives de la nation afin de trouver une meilleure solution de sortie de crise. Pour cette raison, souligne le communiqué, le chef de l'État considère très importante la création d'un meilleur climat de dialogue et de contention verbale afin de sauvegarder une meilleure tranquillité sociale dans le pays. S'adressant aux forces de défense et de sécurité, le chef de l'État bissau-guinéen José Mario Vaz a salué la haute maturité démontrée dans l'accomplissement de leurs devoirs constitutionnels. Toujours citant le communiqué de la présidence de la République, le premier magistrat de la nation a aussi félicité et remercié la société civile, bien comme la communauté internationale, pour leur participation active à la recherche de solutions de sortie de crise. Le président José Mario Vaz a appelé aux acteurs politiques d'observer rigoureusement la constitution de la République pour la consolidation de l'état de droit. Nouama Kalibissao, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Tunisie, un couvre-feu nocturne a été décrété sur l'ensemble du territoire. Depuis plusieurs jours, des manifestations parfois violentes ont atteint plusieurs villes du pays. Le point avec Idriss Fall.
La grogne sociale a débuté samedi à Kasserine lorsqu'un jeune chômeur, Rida Yahyaoui, est mort électrocuté en protestant contre son retrait d'une liste d'embauche de la fonction publique. À Sidi Bouzid, où fin 2010, l'immolation d'un jeune avait déclenché le printemps arabe, le gouvernorat est placé sous la protection de l'armée à cause des manifs. Ce mouvement s'est propagé comme une traînée de poudre. Dans le Grand Tunis, deux magasins et une banque ont été saccagés. Les heurts avec les forces de l'ordre ont duré jusqu'à 5 heures du matin. D'après Walid Louguini, porte-parole du ministère de l'Intérieur, au plan national, trois postes de police ont été attaqués et 42 membres des forces de l'ordre blessés. Le couvre-feu est décrété de 19h à 4h, temps universel. Le premier ministre Habib Essid a dû écourter sa tournée en Europe. Après le forum de Davos, il s'est arrêté à Paris où le président François Hollande a promis 1 milliard d'euros sur 5 ans. Monsieur Essid doit réunir demain une cellule de crise. Il a affirmé que la situation est maîtrisée, mais a reconnu qu'il n'avait pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes d'emploi et tout de suite.
On passe maintenant à l'actualité. Ici aux États-Unis, Washington a commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie et aussi au Soudan. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
On reste aux États-Unis quelques jours après que le président Barack Obama s'est félicité des fruits de la diplomatie avec l'Iran. Les parlementaires républicains au Congrès de Washington font pression pour l'adoption de sanctions américaines encore plus dures contre Téhéran. Plus de détails avec Timothée Donangmaï.
Pendant que les sénateurs se dépêchent de quitter Washington avant la grande tempête de neige que l'on prédit pour la région cette fin de semaine, plusieurs républicains ont parlé de l'Iran. Parmi eux, la sénatrice Kelly Ayotte.
Nous devons tenir tête à ce régime iranien. Leurs tests illégaux de missiles balistiques et leur soutien continu à la prise d'otages. Nous allons imposer des sanctions plus dures.
De son côté, le sénateur John McCain, l'adversaire républicain de M. Obama en 2008, a accusé le président d'être tellement attaché à l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a fermé les yeux sur les provocations de l'Iran.
Ce président et ce secrétaire d'État font tout pour plaire aux Iraniens. Peu importe ce que ces derniers font, peu importe l'offense qu'ils vont subir, M. Obama et Kerry ne feront absolument rien. Ce sera donc au Congrès d'agir.
Les parlementaires républicains n'ont pas précisé les mesures punitives qu'ils envisageaient à l'encontre de l'Iran. Mais on se rappelle que dimanche dernier, le président Barack Obama a salué la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier avec Téhéran par les États-Unis et leurs partenaires du P5+1.
Au terme de cet accord sur le nucléaire que nos alliés, partenaires et nous-mêmes avons conclu l'an dernier, l'Iran ne mettra pas la main sur une bombe nucléaire. Nous sommes parvenus à ce progrès historique grâce à la diplomatie sans recourir à une autre guerre au Moyen-Orient.
En tout état de cause, pour l'adoption de sanctions, toute proposition de loi des républicains devra bénéficier du soutien d'un certain nombre de sénateurs démocrates pour être approuvée. Or, l'an dernier, le rejet de l'accord sur le nucléaire a été bloqué au Sénat quand la minorité démocrate a empêché les républicains d'obtenir la majorité des deux tiers requises.
La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, dont le mandat expire le 5 juillet prochain, s'est dite candidate aujourd'hui à un nouveau mandat à la tête de l'institution financière internationale. Rappelons que le FMI a ouvert hier les appels à candidature et espère nommer son prochain patron d'ici début mars. Pour le moment, aucun concurrent ne brigue le poste de Madame Lagarde. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.